France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Tous les premiers lundis du mois, on fait le tour de l'actualité des sciences avec nos amis de la presse écrite et ceux de la médiation scientifique. En ce mois de novembre, qu'est-ce qui a piqué notre curiosité ? Au menu, après l'âge de pierre, du bronze et du fer, les archéologues redécouvrent un matériau essentiel dans l'histoire de l'humanité. Utilisé il y a près de 3 millions d'années, c'est l'âge du bois. Puis, l'invasion rapide du pleurote jaune menace aujourd'hui la bonne santé des écosystèmes forestiers. Ensuite, les rats n'en finissent pas de nous surprendre. Ils savent même chasser les chauves-souris en plein vol. Et enfin, si l'astéroïde 2024 YR4 ne menace plus notre planète, il a plus de chances d'impacter la Lune. C'est peu probable, mais à quoi ressemblerait ce spectacle ? Âge du bois, pleurote jaune, rat prédateur et géocroiseur, au clair de la Une. Et bonjour Mathilde Fontaise.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique, rédactrice en chef du mensuel Epsilon. Marie Trébert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vulgarisatrice scientifique, naturaliste et vidéaste de la chaîne YouTube La Boîte à Curiosités. Philippe Aynarijos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace et l'auteur du roman de SF Post-désintégration, les chroniques intergalactiques aux éditions LibriNova. Et nous sommes en ligne également avec Tania Louis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médiatrice scientifique, docteur en biologie et vidéaste pour la chaîne YouTube Les Petites Manips à la Maison. Merci, grand merci à vous quatre d'être là avec nous en direct dans nos studios à France Culture et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez aussi suivre cette émission tout en nous suivant sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Et on commence tout de suite avec notre premier sujet du jour et la revue Epsilon. Quelle a été l'importance du bois dans les technologies des hommes et des femmes du paléolithique? Voici déjà un premier élément de réponse, mais pour les sociétés du néolithique, c'est notre première archive. Nous sommes en 1990.
Pour les maisons néolithiques, la base des assemblages est faite sur des filasses, donc des écorces que l'on met à rouillir, comme on mettait à rouillir du chanvre, pendant un mois et demi et deux mois, et ensuite contorsadé. Et ces filasses deviennent de plus en plus rares à la fin du néolithique et au début de l'âge du bronze. Et on s'aperçoit que certaines essences, comme le tilleul, ont été rayées de la carte de la végétation de toutes les zones les plus densément peuplées.
Donc au départ, les maisons étaient faites en bois vert.
Oui, je pense que le bois vert a duré très longtemps. Là, il nous manque des sites lacustres de l'époque de l'âge du fer ou de l'âge du bronze. Malheureusement, on en a pour l'âge du bronze, mais pratiquement pas pour l'âge du fer. Ce problème du bois, de l'utilisation du bois mort, enfin du bois semi-sec ou vraiment séché, ça va venir effectivement avec la scie, parce que même avec la hache en fer, bon, c'est vrai qu'on peut commencer à travailler du bois sec, mais c'est encore extrêmement difficile.
Et vous avez peut-être reconnu la voix de Vincent Charpentier qui s'exprimait donc sur l'architecture des âges du bronze et du fer sur France 3. Mathilde Fontaise, on découvre récemment que l'âge de pierre, c'est aussi celui de l'âge du bois. Ça paraît être une évidence, presque dit comme ça.
Dit comme ça, ça paraît une évidence, mais donc on se situe juste avant l'extrait, en fait, hein, et dans cette période pré-métallique, disons, avant l'âge du fer, avant l'âge du bronze, donc, et on a une manière de dire que c'était l'âge de pierre, puisque tout ce qu'on retrouve, ce sont des vestiges en pierre, ces pierres taillées, etc., qui sont associées à l'homme préhistorique en général. Et effectivement, ça paraît une évidence, puisqu'on peut se dire que le premier matériau, la première matière qui pouvait être à la disposition de nos ancêtres, c'était d'abord le bois, bien avant d'être la pierre. Sauf que le problème, c'est qu'on ne retrouvait aucun vestige. Et vous vous doutez bien pourquoi, parce que le bois, ça se décompose, c'est mangé par des petites bactéries, attaqué par des champignons. Et donc, quand on est un spécialiste de la préhistoire, ben on n'a rien à se mettre sous la dent pour ce qui est des outils en bois. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un petit changement qui en provoque un grand. C'est l'arrivée de techniques qui commence à permettre, en étudiant plus finement, on y reviendra sans doute, de nouveaux vestiges. Mais c'est aussi et surtout un changement de regard. C'est qu'avec ces petites découvertes, quelques petits indices de certains objets avant Sapiens qui montrent que l'homme préhistorique était capable, donc ce sont des espèces avant Sapiens, ça veut dire Néandertal, ça veut dire l'homme de Flores. On retrouve comme ça des indices d'un travail du bois plutôt élaboré. Et puis on se met à re-regarder après tous les vestiges avec cet œil nouveau en se disant on peut pas chercher, en regardant ça comme ça, est-ce qu'on peut pas trouver d'autres indices? Et c'est comme ça qu'on a repéré, nous, à Epsilon, que ces dernières années, ces derniers mois, il y avait de plus en plus de publications qui faisaient état de tout un tas de découvertes en bois, ou en tout cas d'objets dont on suppose, enfin, de vestiges dont on suppose qu'ils venaient d'objets en bois, puisqu'on n'a rien, toujours pareil, on n'a rien vraiment dans la main.
Oui, comme vous dites, le gros souci, c'est la préservation, puisque la pierre, l'os, ça survit plusieurs, on le sait, hein, plusieurs siècles, plusieurs millénaires. Le bois, en l'occurrence, les cas de conservation sont assez rares et du coup, on est obligé de travailler sur finalement des preuves indirectes, c'est ça?
Oui, on est obligé de, bah, d'étudier très finement en microscope électronique pour retrouver. Alors, c'est des empreintes de silice, en fait, c'est en quelque sorte l'ossature du végétal qui va rester, par exemple, je ne sais pas, sur une pierre, etc., et qui va pouvoir peut-être indiquer que il y avait un manche accroché à la pierre. Ou alors, ça peut être des marques d'usure sur les outils en pierre qui montreraient qu'on aurait travaillé le bois avec ces pierres. Et puis, dans des cas miraculeux, ça peut être des objets disparus qui sont, en fait, qui n'existent plus, mais dont on trouve la trace dans des sédiments. Un peu des fossiles, en fait, d'objets en bois et qui se sont marqués, mais c'est très rare. Et on retrouve tous ces objets-là. Mais comme je disais, c'est vraiment un changement de regard. C'est vraiment une nouvelle manière d'observer les vestiges archéologiques qui a amené à rassembler ces dernières découvertes, tout un tas de découvertes ces derniers mois. On les a rassemblées dans l'article de Vincent Nouriga dans une carte et on voit comme ça qu'on a partout dans le monde des vestiges qui ont été découvertes très récemment, quoi, dans l'année passée.
Très récemment et des vestiges très anciens. En effet, on voit des preuves de ce savoir-faire du bois. On a de plus en plus justement de traces de ces usages-là, Mathilde Fontaise.
Oui, alors on peut essayer de se représenter quels usages ils en faisaient à partir de chacun de ces cas. Donc par exemple, je pense à un site néandertalien qui a été étudié, donc sur lequel on a trouvé des outils en bois qui datent de 200 000 ans. Et là, on voit que, par exemple, les essences de bois semblent être variées. On aurait utilisé de l'if, du pin, de l'épicéa, du buis, et tous ces vestiges de bois ont été coupés, ont été grattés, ont été pelés avec des incisions, ont été abrasés, lissés, appointés, je lis mon énumération hein, parce que je l'avais préparé, arrondis, fendus et même durcis au feu. Bref, tout ça montre que à la fois à l'époque, on était capable de sélectionner une essence d'arbre pour un usage. On fait pas la même chose avec de l'if qu'avec du pin qu'avec de l'épicéa, et ça montre aussi qu'on était capable de préparer l'outil de manière fine avec différentes techniques qui avaient été élaborées. Un autre exemple que je peux donner qui me paraît intéressant, c'est un exemple qui a été retrouvé en Allemagne. On a trouvé des sortes de javelots et qui montrent là carrément ces javelots sont assez complexes, c'est des pics avec le bâton de bois avec une pointe au bout. Et l'étude fine de ces javelots a révélé qu'il y avait sans doute une forme de chaîne opératoire assez complexe qui avait amené à les construire. C'est-à-dire qu'on prend pas un bâton, comme les chimpanzés savent très bien le faire, juste pour taper sur le voisin. Non, on apprend à comment est-ce que le bâton va être, dans quel type de bois il va devoir être fait, mais mieux que ça aussi, comment est-ce qu'on place la pointe pour qu'elle soit solide dans la partie la plus solide du bois. Et donc ça montre tout un savoir-faire qui était présent déjà. Donc pour ce site en Allemagne, c'est aussi il y a 200 000 ans.
Oui, ça montre en effet une complexité technologique très élevée. D'ailleurs, par rapport à ces lances, il y a cette expérience assez amusante. On a quand même fait utiliser à des athlètes des répliques de ces lances. Et on voit qu'elles se comportent comme des javelots, finalement, contemporains, avec, je disais, hein, une capacité d'atteindre une cible située jusqu'à plus de 15 mètres.
Oui, ça c'est tout le bénéfice de l'archéologie expérimentale, hein, qui a vraiment à chaque fois, qui permet de, à partir des vestiges, il faut les construire. Et puis après, il faut s'en servir, et c'est comme ça qu'on voit quel était leur usage, ou en tout cas qu'on peut essayer de déterminer quel était leur usage, et effectivement qu'on s'aperçoit là d'une grande technicité dans la fabrication de ces lances, et donc forcément, enfin, en tout cas, on peut supposer d'un transfert de compétences, d'un transfert de savoir-faire, de la capacité à mettre en place des apprentissages, d'une utilisation du bois déjà présente depuis de longues années. Et ça m'amène à l'échantillon qui est le plus ancien parmi tous ceux qui a été découvert, qui est un échantillon qui date de 480 000 ans en Zambie. Et d'ailleurs, le chercheur qui a retrouvé cet échantillon et qui l'a analysé nous parle, lui, carrément de l'âge du bois. Il a nommé cet âge comme ça. Nous, on est des journalistes, donc on peut s'amuser. On a dit, dans l'épisode, on dit « oubliez l'âge de pierre, voici l'âge du bois ». Mais ce chercheur nous a validé l'expression en quelque sorte, en osant dire qu'il fallait vraiment considérer ça comme un âge. Lui, ce qu'il a trouvé, ce sont des espèces de proto-constructions. Donc là, ça nous amène carrément à une autre échelle et ça nous amène à nous dire que en plus des outils, On était aussi capable de maîtriser suffisamment bien le bois pour pouvoir commencer à édifier des constructions. Donc lui, il a trouvé des branches enchâssées grâce à une encoche, en fait. Et son interprétation, c'est que ça pourrait être une plateforme surélevée qui était positionnée au bord d'une rivière. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'effectivement, là encore, ça montre un savoir-faire de construction parce que l'assemblage était stable, parce qu'il y avait une jonction très solide entre ces planches de bois. Et ça montre qu'on était capable de construire il y a 480 000 ans en Zambie.
Là, on parle de construction, en effet, d'habitation, de refuge, mais on peut imaginer une fabrique bien plus vaste, Mathilde Fontaine. Mais surtout s'il y a l'hypothèse des cordes, des cordages, avec justement ces essences qui sont entremêlées entre elles. Enfin, il y a quand même, je trouve que c'est un champ ouvert pour l'imagination qui est quand même très riche et exaltant.
Oui, ces cordes, alors ce sont trois fibres qui ont été retrouvées torsadées. Elles ont été retrouvées dans l'abri du Marat en Ardèche. Et alors, pareil, interprétation, on n'est pas du tout sûr, on est sûr de rien. Mais quand on les a regardées au microscope, on s'est aperçu qu'elles étaient torsadées et pliées. Et donc, elles révèlent, ce qu'elles révèlent, c'est qu'on était capable de comprendre qu'en torsadant ces fibres, on pouvait les rendre plus solides, on pouvait en faire un usage particulier. Et après, ça ouvre tout à fait de nouvelles perspectives. Parce que si on imagine qu'à cette époque-là, il y avait une connaissance de la fibre, en tout cas de comment rendre les fibres plus solides, on peut imaginer un travail des fibres, des nattages pour faire des paniers, on peut aller jusqu'à imaginer une sorte de prototissage du vêtement, en fait, en regardant ça comme ça.
Oui, Marie Trébert.
Oui, ça me faisait penser, j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur la grotte Chauvet, où les archéologues justement essayent de recomposer des petits fagots de bois pour voir comment on concevait des torches. Et ce qui est fou, c'est qu'ils travaillent du coup pas sur du bois, parce qu'il n'y en a pas la trace, mais par contre, il y en a la trace sur les parois, quand on frottait les torches. Donc on a des traces, des petits traits comme ça, et je trouve ça incroyable de travailler sur cette trace, et d'après d'essayer de recomposer les petits fagots, je trouve ça, voilà.
Oui,
ces traces, on les retrouve évidemment beaucoup, et ces traces éteintes dans les grottes. Ouais.
Mais là, par rapport justement à l'archéologie expérimentale, on voit aussi dans cette histoire du bois, dans l'histoire des hommes et des femmes du passé, l'importance que ça a pu aussi avoir pour le peuplement et des conquêtes des territoires maritimes. Ça, du côté de l'Asie du Sud-Est, par rapport à la fabrication d'embarcadères ou de canoës.
Bah forcément, quand on pense au bois et à la maîtrise du bois, quelque part, on pense assez vite quand même aux embarcations, on pense assez vite aux bateaux, la première chose qu'on y... Enfin, c'est pas la première chose, mais disons la chose la plus peut-être impressionnante qu'on puisse construire en bois, c'est bien le bateau pour explorer plus loin. Et ça colle, enfin, ça arrive dans le débat au moment où on a une publication cet été qui dit que Sapiens a pu atteindre le Japon en bateau il y a plus de 30 000 ans, et avec une question qui est débattue aujourd'hui, de savoir comment Escherichthus a débarqué en Indonésie il y a 1 million d'années. Donc ces questions-là sont débattues, mais simplement on peut se dire que d'un côté on a ces débats sur l'expansion géographique des espèces pré-sapiens, et d'autre côté, on a cette maîtrise des savoir-faire autour du bois qui est faite. Donc effectivement, en rejoignant les deux, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas eu des embarcations qu'on n'a pas retrouvées qui ont emmené les humains très loin.
Voilà, pour tout savoir de la navigation préhistorique, je vous invite à podcaster notre épisode « Les vieux hommes et la mer ». Et là, tout de suite, pour notre deuxième sujet de ce Club Actu, on reste dans la botanique, mais on revient en 2025 avec l'invasion des pleurotes jaunes. Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, on fait le tour de l'actualité des sciences en compagnie de nos amis de la presse écrite et de la vulgarisation scientifique. On vient de voir que la mauvaise conservation du bois a biaisé notre vision de la préhistoire et que l'expression de l'âge du bois émerge chez les archéologues. À présent, avec vous Tania Louis, on se penche pour la cueillette aux champignons invasifs.
C'est un des plus beaux atours de la capitale comtoise. Un tiers de la superficie de Besançon est couvert de forêts. Un cadre verdoyant apprécié des amoureux de la nature, un spectacle apaisant, gâché depuis peu par un vacarme mécanique. Car dans les bois bisontins, les coupes en règle se multiplient. En cause, la calarose, un champignon asiatique qui a conquis les forêts d'Europe à partir de la Pologne. Il s'attaque aux frênes avec un taux de mortalité supérieur à 90%. Près de 15% de la forêt bisontine est menacée.
On est sur quelque chose qui est dramatique, parce que quand on sait que par ailleurs on a moins d'insectes, moins d'oiseaux, etc., et que physiquement là, on se trouve avec une disparition d'une espèce totale, du coup on se dit, et sans moyens, Et là, ce sport, il se promène avec le vent. Donc là, on va pas mettre des voiles au-dessus de nos forêts. Enfin, voilà, il y a aucun moyen. Donc effectivement, on se sent dans une très grande difficulté. Et c'est pour ça qu'on est tout de suite très réactif à se dire, il faut qu'on soigne les individus qui montrent une résistance.
Voilà un extrait du JT de France 3 en 2018. Tania Louis, on va parler dans quelques instants de l'étude qui a retenu votre attention. Mais là, cette archive soulève quand même le caractère envahissant de certains champignons.
C'est intéressant parce que justement, cette archive correspond exactement à l'image qu'on s'en fait en général. C'est-à-dire que les champignons peuvent être problématiques parce qu'ils sont pathogènes. Et il y a beaucoup d'exemples, hein, y compris pour des maladies qui concernent les animaux, comme certaines chauves-souris ou les batraciens. Mais là, en l'occurrence, la particularité du pleurojaune, c'est qu'il est invasif, mais qu'il est non pathogène. Parce qu'en fait, ce qu'on définit aujourd'hui comme une espèce exotique envahissante, de façon assez intéressante, ça concerne rarement les pathogènes. Donc on va peut-être revenir un peu sur cette notion, parce qu'on la connaît sans la connaître, peut-être. Ce qu'on appelait longtemps les espèces invasives, et qu'on appelle aujourd'hui plutôt les espèces exotiques envahissantes, ce sont des espèces qui ont été sorties de leur environnement naturel, en général par l'être humain, et qui prolifèrent efficacement dans leur nouvel environnement au point de lui nuire. C'est pour ça qu'on les qualifie vraiment à la fois d'envahissantes et d'exotiques. Et on en connaît tous plein. Alors pour en citer quelques-unes qui nous posent problème en France, notamment en France métropolitaine, le frelon asiatique, les ragondins, la pyrale du buis, le moustique tigre, l'écrevisse de Louisiane, ça c'est côté animaux. Et côté végétaux, on peut penser à la jussie, qui vient d'Amérique du Sud et qui envahit pas mal d'écosystèmes, notamment en Bretagne, Loire-Atlantique. Les fameuses herbes de la pampa, qui sont invasives et d'ailleurs interdites depuis 2024 en France. Donc si vous en avez dans votre jardin, vous êtes en théorie censé les détruire pour respecter la loi. On peut aussi penser à des algues, les colerpes, qui sont venues des zones tropicales et qui ont envahi la Méditerranée. Et tout ça, en fait, ce sont des exemples d'animaux ou de végétaux. Et justement, la nouveauté de cet article qui est paru au mois d'août dans Current Biology, c'est de présenter pour la première fois une espèce de champignon comme étant invasive.
Bah en effet, cette étude montre qu'en Amérique du Nord, un pleurote est passé de nos poêles aux forêts, menace maintenant les communautés indigènes de champignons. Alors peut-être on peut faire un portrait de ce pleurote jaune. Quelles sont ses caractéristiques? Que fait-il, Tania Louis?
Eh bien, il ressemble énormément aux pleurotes qu'on retrouve chez nous, sauf que les nôtres sont d'un gris un peu triste et que celui-là est vraiment d'un jaune vif, d'où son nom, pleurote jaune ou pleurote doré. Et il est originaire d'Asie de l'Est et en fait, il est arrivé en Amérique du Nord parce qu'il est très bon, a priori. Il a un goût de noisette, donc sa culture s'est développée au début des années 2000 pour l'alimentation. Et en fait, bah, comme beaucoup d'espèces cultivées par l'homme, il a été sélectionné. Donc c'est un champignon qui se reproduit de façon très efficace et qui fait en particulier, en plus d'avoir une croissance rapide, beaucoup de structures de reproduction, puisque chez les champignons, la partie qu'on voit et qu'on mange, ce sont les structures de reproduction. Le gros du champignon est en fait ce qu'on appelle un mycélium, un réseau de filaments en général invisibles à l'œil nu parce que cachés dans le sol ou dans le bois, donc en l'occurrence pour ce champignon-là dans le bois. Puisqu'en fait, c'est un champignon de la grande catégorie qui, justement, pose problème aux archéologues parce qu'il dégrade le bois mort. Et celui-ci pose problème parce qu'il dégrade le bois mort plus rapidement que les autres espèces et qu'il perturbe les écosystèmes fongiques. Donc là, on parle d'un champignon qui s'est installé notamment en Amérique du Nord, on va dire Amérique du Nord-Est, entre le Canada et les États-Unis. Où en fait il est arrivé dans nos cuisines dans les années 2000 et des spores ont atteint les forêts à plusieurs endroits et à plusieurs reprises, plutôt autour de 2010. Donc les scientifiques ont fait des prélèvements sur des ormes morts dans trois parcs du Wisconsin. Ils ont extrait l'ADN que contenait ce bois pour faire une analyse métagénomique, donc en regardant très généralement tout l'ADN présent, de l'ensemble des champignons qu'on pouvait retrouver sur chaque arbre. Et en fait, les conséquences sont assez incroyables, hein, parce que ce dont ils se sont aperçus, c'est que s'il y a du pleurote jaune, ce qui est très facile à voir à l'œil nu, vraiment, globalement, les pleurotes font des énormes excroissances jaunes vives sur les arbres morts, on trouve deux fois moins d'espèces de champignons présentes sur l'arbre, avec un effet encore plus marqué en local, au niveau de la zone où se trouve le pleurote. Donc pour un même arbre, on passe d'une quarantaine à une vingtaine d'espèces. Et la composition globale de ces écosystèmes fongiques diminue. Et ça, c'est alarmant, hein, en fait, parce que les forêts sont des écosystèmes qui reposent énormément sur l'équilibre des champignons qu'on y trouve. Et en fait, ces pleurotes jaunes, ils sont en compétition avec les champignons locaux pour la ressource en bois mort. Et le fait que cette souche ait été sélectionnée pour sa croissance efficace, bah, fait qu'ils gagnent la compétition. Et ça pose aussi beaucoup de problèmes pour les autres organismes, alors, pas seulement les champignons et le bois.
Mais quels sont justement, Tania Louis, par rapport à ces pleurotes jaunes qui sont sur ces morceaux de dormement, quelles sont les autres espèces fongiques qui se sont fait chasser ?
Eh bien, il y a notamment une espèce qui est intéressante parce qu'elle produit des molécules. Alors ça, c'est une spécificité des champignons. Ils sont à l'origine de beaucoup de molécules intéressantes pour les humains, notamment intéressantes sur le plan médical. On leur doit notamment la pénicilline. Et là, il y a des espèces qui produisent beaucoup de molécules qu'on n'a pas encore eu le temps d'étudier, qui sont en train de disparaître. Il y a aussi une espèce de champignon qui a une relation symbiotique avec des insectes, qui disparaît en présence du pleurote jaune. Et ce qu'on constate aussi, c'est que l'accélération de la dégradation du bois mort fait qu'il y a moins de bois mort qui reste sur les sols forestiers, et donc moins d'habitat pour toutes les espèces qui utilisent ce bois mort. Et il y a aussi un impact sur le cycle du carbone, parce qu'en fait, il y a différents types de champignons qui dégradent le bois via des réactions chimiques un peu différentes. Et en l'occurrence, le pleurote jaune appartient à une catégorie qui libère plus de carbone dans l'atmosphère quand il dégrade le bois, parce qu'il en piège moins dans les sols. Donc non seulement ça change les écosystèmes fongiques, mais ça a un impact global sur les forêts et même sur le cycle du carbone.
Oui, donc là, on comprend bien finalement que la biodiversité et la diversité de champignons, ça joue un rôle capital et essentiel pour la santé des écosystèmes forestiers, Tania Louis.
Complètement. Et en fait, c'est une publication que je trouve vraiment importante au-delà de l'exemple particulier de ce champignon-là, parce que comme c'est la première fois qu'on décrit un champignon comme une espèce exotique envahissante, bah, ça amène, et les auteurs en parlent même, à repenser un petit peu nos pratiques. Parce que le pleurote doré, par exemple, on en trouve aussi dans des forêts d'Europe et d'Afrique. Il a été reconnu comme envahissant en Suisse, il est cultivé dans plein de pays. Et en fait, les scientifiques font vraiment un plaidoyer pour qu'on inclue les champignons dans le champ des espèces exotiques envahissantes, qu'on mette plus de moyens pour étudier leurs impacts sur les communautés locales et qu'on fasse évoluer nos pratiques de culture. Parce que ça s'est beaucoup développé pour le pleurote jaune, mais aussi pour d'autres. Cette espèce de tendance d'avoir son petit kit pour faire pousser son champignon à la maison, ce qui est très chouette et très pédagogique. Hein. Moi, en tant que médiatrice scientifique, j'aime beaucoup. Mais en fait, ça interroge sur l'origine des espèces de champignons qu'on cultive de ces façons-là et qu'on peut aussi mettre dans nos composts après les avoir achetés, même si on ne les a pas fait pousser soi-même. Et donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur d'où viennent les champignons qu'on mange et s'ils ne viennent pas de l'endroit où on vit, comment faire pour éviter que ces cultures ou ces consommations à domicile aient un impact sur les écosystèmes locaux.
Alors, faire preuve de plus de vigilance dans la culture de champignons. Quant à le caractère invasif, il y a aussi dans cette étude, on voit dans les bases de données que ce champignon qui serait donc apparu sur le sol américain en 2023, il est présent dans au moins 25 États américains. Vous souhaitiez commenter, Marie Trébert ?
Oui, je voulais juste souligner le fait que le terme d'espèce exotique envahissante est toujours relié au fait que c'est introduit par l'homme délibérément ou non. En Méditerranée, en ce moment, il y a une grande catastrophe. C'est quand même, depuis qu'il y a eu le canal de Suez, il y a quand même beaucoup de poissons qui sont passés par là, et notamment la fameuse rascasse, qui n'est pas du tout prédatée et qui commence à bien s'installer en Méditerranée et à manger énormément de populations de poissons en Méditerranée. Donc, c'est intéressant de voir aussi que ces espèces-là, elles peuvent être animales, mais aussi végétales et champignonnesques. Donc, je trouve ça chouette comme étude.
Parmi ces autres espèces fongiques invasives, Tania Louis, quoi d'autre ? Quelles sont les autres espèces qui sont justement préoccupantes, excepté le pleurote jaune ?
Pour les champignons, c'est vraiment la première qui est décrite comme préoccupante. Et comme vous le soulignez tout à l'heure, Natacha, c'est intéressant parce que vraiment, c'est aussi une étude qui s'est appuyée sur les sciences citoyennes, les sciences participatives. Et je pense que c'est intéressant de rebondir là-dessus, où effectivement, les scientifiques se sont basés sur les reports dans les bases de données ouvertes pour suivre l'aire de répartition, qui est actuellement estimée à environ 2 millions de kilomètres carrés pour ce champignon en Amérique du Nord, ce qui veut dire que clairement c'est trop tard pour l'arrêter. Mais ça montre aussi l'importance des relevés citoyens faits sur le terrain. Et on a énormément de projets de sciences participatives naturalistes en France auxquels on peut contribuer. Mais voilà, là on parle d'un exemple en Amérique du Nord. C'est important de rappeler qu'il y a aussi des espèces exotiques envahissantes en France. La France, c'est même le pays européen où on en recense le plus. On en recensait 34 en 2022, dont une espèce de rat. Donc on pourra faire le lien avec le sujet suivant. Et ça a un coût énorme, en fait, ces espèces. Il faut vraiment y être très vigilant. En Europe, le coût des espèces exotiques envahissantes est aujourd'hui estimé à plus de 12 milliards d'euros par an, 395 millions d'euros par an en France, parce que ce sont des menaces sur les ressources qu'on utilise, qui modifient des écosystèmes, qui font de la prédation d'espèces locales, mais qui peuvent aussi avoir des impacts sanitaires. Là, je pense par exemple aux moustiques tigres, hein, avec des nouvelles pathologies qui arrivent en France métropolitaine et qui n'étaient pas là quand les moustiques tigres n'étaient pas là non plus, mais aussi des impacts économiques directs sur l'agriculture, par exemple. Donc c'est intéressant de savoir qu'en France, il y a toute une stratégie de lutte nationale, et notamment une plateforme, un centre de ressources espèces-exotiques-envahissantes, au pluriel, qui est piloté par l'Office français de la biodiversité et le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature, où c'est possible d'aller regarder région par région ou espèce par espèce quelle est la situation en France et ce qu'on peut faire à notre échelle à nous pour éviter que ces espèces exotiques envahissantes prennent de l'ampleur.
En tout cas, vous merci Tania Louis, puisque vous venez de m'offrir une magnifique transition. On va continuer de parler d'espèces invasives, mais cette fois-ci de rats. Ils savent désormais chasser les chauves-souris. Astéroïdes, car on s'apprête à parler d'astéroïdes géocroiseurs en direct sur France Culture. On fait le tour de l'actualité des sciences en compagnie de nos quatre invités du jour. Mathilde Fontaise, rédactrice en chef du mensuel Epsilon. Tania Louis, médiatrice scientifique et docteur en biologie. Marie Trébert, vulgarisatrice scientifique, naturaliste et vidéaste. Et Philippe Hénarijos, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace. Marie Trébert, ce qui vous a intéressé récemment, c'est un nouveau comportement observé chez les rats. L'intelligence de ces rongeurs continue de surprendre les chercheurs.
Prenez un rat, si cela ne vous fait pas peur, obligez-le à réduire considérablement ses activités habituelles, et très vite vous pourrez constater qu'il décline physiquement et intellectuellement. C'est une des observations faites à la Faculté des sciences de Paris par le professeur Soulérac et son assistant, M. Lambert. Une étude qui leur a prouvé que l'environnement était un facteur important de l'évolution de l'intelligence chez les rats.
Il faut combien de temps à un rat pour atteindre son maximum d'intelligence ?
Chez le rat, dans des conditions normales, il acquiert son intelligence habituelle aux environs de 3 mois.
Pour que les rats puissent développer leur intelligence, il faut deux conditions. La première, être dans un milieu dans lequel il y ait des stimulations extérieures renouvelées constamment. La deuxième, qu'il ne soit pas seul. Cela pose le rôle de la vie dans la société.
Voilà un extrait du Trésor de l'ORTF en 1974. On salue le travail de montage sonore avec ces petits bruits de rats. Marie Trébert, vous aussi, vous avez été interpellée par les capacités cognitives de ces rongeurs.
Oui, tout à fait, parce que le maximum de son intelligence, je ne sais pas quand va atteindre ce maximum le rat, mais plutôt on va parler d'adaptation assez extraordinaire. Et dans cette étude, les chercheurs n'ont pas hésité à qualifier ce nouveau comportement de remarquable. Et encore une fois, les rats nous montrent qu'ils sont capables d'une grande plasticité comportementale et d'une capacité d'adaptation à toute épreuve.
Et c'est une étude qui est parue dans Global Ecology and Conservation en novembre, tout de suite, c'est d'ailleurs très récent comme papier, et ça documente pour la première fois un comportement de prédation qu'on n'avait donc jamais observé directement.
Oui, c'est ça. Alors, c'est très étrange, mais du coup, on voit ce qui est chouette, c'est que dans l'étude, j'invite les auditeurs à aller voir, parce que ça vaut le détour, on voit vraiment des rats se poster à l'entrée de sites d'hibernation de chauves-souris en Europe centrale, donc en Allemagne, sur deux sites de grottes qui sont vraiment en milieu urbain. Et ils se positionnent, ils ont développé plusieurs stratégies, et la première, c'est vraiment de chasser à l'affût. Ils se mettent à l'entrée et ils sautent sur les chauves-souris en plein vol, ils les mordent et ils les tuent, ils les mangent. Il y a une deuxième stratégie qui est d'aller dans la grotte et d'aller manger les chauves-souris quand elles dorment. Voilà.
En effet, on peut voir, hein, c'est des vidéos assez impressionnantes qui sont tournées avec des caméras infrarouges de l'imagerie thermique. Et on voit les rats qui se tiennent debout sur leurs pattes arrière, qui utilisent leur queue même pour leur équilibre. Et on les voit avec leurs pattes saisir les chauves-souris en plein vol. Ça, c'est quelque chose qui a été en effet documenté par cette équipe de scientifiques allemands, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et donc du coup, effectivement, le protocole était qu'ils ont posé des caméras infrarouges et des appareils d'imagerie thermique pour étudier deux sites en Allemagne sur des périodes de forte activité des chauves-souris entre 2020 et 2024. Ils ont vu ce qui est important, encore une fois, de spécifier, c'est que c'était vraiment en zone urbaine, en ville, donc dans des endroits où il y a beaucoup de déchets humains, où il y a beaucoup de ressources pour les rats, et de voir du coup comment ils s'adaptent et qu'est-ce qu'ils vont chercher comme source de nourriture. Et là, on est un peu tombé de haut en disant qu'ils allaient manger des chauves-souris vivantes. Et donc, sur le premier site, donc une grotte qui est située sur le site de Segeberger Kalberg, on a capturé 30 tentatives de prédation, dont 13 éliminations confirmées. et là aussi, sur le même site, en plus de ces prédations, les chercheurs ont également découvert les restes d'au moins 52 chauves-souris, des carcasses, dont certaines qui n'avaient pas été entièrement mangées. Ils les avaient stockées et cachées pour plus tard. Et donc sur l'autre site, une grotte qui est située au Kalkberg de Lunenburg, les chercheurs, ils n'ont pas observé d'élimination directe, mais encore une fois, ils ont retrouvé des espèces de charniers, des crevasses dans lesquelles on entasse et on stocke la nourriture composée de chauves-souris.
Voilà, c'est même traces indirectes d'amas de carcasses. C'est une technique qui marche donc plutôt bien. C'est aussi, est-ce qu'on peut dire que c'est un comportement anecdotique, ou est-ce qu'on a une idée de à quel point ce comportement qui est documenté pour la première fois est répandu?
Pour l'instant, c'était la première fois qu'on le documentait. Ce qui questionne, c'est encore une fois, comment le rat s'installe en ville et comment il s'adapte, et du coup, quels impacts il va avoir et à quel point ça peut être compliqué sur des animaux que sont les chauves-souris, qui sont des animaux qui sont déjà pour beaucoup en danger d'extinction et qui ont des populations qui sont fragilisées par les milieux et les environnements urbains, par la pollution lumineuse, etc. Donc là, on s'inquiète de se dire, ok, alors il y a des rats qui mangent des chauves-souris, mais quel va être l'impact sur ces populations-là? Et au-delà de ça, on souligne aussi le fait qu'au-delà des chauves-souris, ça peut avoir un impact sur la santé humaine, puisqu'on rappelle que les chauves-souris et les rats sont des réservoirs à virus et que potentiellement, ça pourrait diffuser des pathogènes d'une nouvelle façon.
Voilà, et ces deux animaux sont tous deux des importants réservoirs de faune sauvage. Vous parliez de l'impact justement que ça peut avoir sur les populations de chauves-souris. Est-ce que ça, on arrive à l'estimer?
Oui, alors ce qui est assez rigolo, entre guillemets, hein, c'est que les chercheurs sont vraiment allés très loin dans leurs calculs. Donc ça m'a fait beaucoup, rire et pas rire. Mais pour avoir une idée de la façon dont cette chasse, elle pourrait affecter les populations locales de chauves-souris, donc ils ont effectué des calculs. Ils sont allés jusqu'à calculer le nombre de calories qui composent une chauve-souris, qui est de 45 kilocalories. J'ai comparé, c'est l'équivalent de 3 apéricubes ou 100 grammes de fromage blanc 0%. Et donc, si on estime le besoin quotidien d'un rat qui est d'environ 70 kilocalories, alors un seul rat qui prédaterait uniquement des chauves-souris aurait besoin de manger environ 140 d'entre elles pour survivre sur toute la période d'hibernation de 90 jours. Donc ça ferait soit une à deux par jour. Et ça, eh bien, si on estime que ces rats urbains sur place ont des populations qui se composent entre 15 à 60 individus, eh bien, ça voudrait dire que ce drame se traduirait par entre 2100 et 8400 chauves-souris mortes au cours d'une saison, d'hibernation donnée. Et donc, au final, pour parler en pourcentage, ça ferait 7% des 30 000 chauves-souris qui hiberne, qui pourrait y être dévoré. Alors ça, c'est par contre c'est un scénario extrême qui a été poussé volontairement pour voir vraiment au maximum, alors pas de l'intelligence, mais de l'appétit du rat, ce que ça pourrait donner, mais c'est énorme, 7%. Quoi.
Mais 7% si le rat ne mangeait que des chauves-souris.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et il ne mange pas que des chauves-souris pour l'instant, hein, il se nourrit et, voilà, de tous les détritus, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les chercheurs offrent une possibilité de réfléchir à comment on pourrait, non pas éliminer, mais délocaliser ces rats, parce qu'ils se sont rendus compte que sur cette zone en Allemagne, les égouts n'étaient pas forcément entretenus correctement, qu'il y avait une gestion des déchets dans ces parcs urbains qui n'était pas non plus totalement optimale, et que peut-être, voilà, en offrant des zones nettoyées, etc., on pourrait délocaliser les populations pour qu'ils se disent, bon, il y a quelque chose à manger de différent que des chauves-souris.
Mathilde Fontaine, vous souhaitiez réagir?
Ça m'évoque une histoire positive, une intégration qui s'est bien passée. Ça m'a fait penser aux perroquets de Sydney. Je ne sais pas si vous connaissez les perroquets de Sydney. Mais eux aussi ont fait l'objet de vidéos faites par des chercheurs et en train notamment de réussir à boire à la fontaine publique, poussant le petit loquet, se contorsionnant et réussissant avec leur bec à boire un peu parce qu'il faisait chaud. Donc des gestes super complexes dont on ne pensait pas du tout que ces oiseaux-là étaient capables. Et ça montre à quel point le milieu urbain peut être un stimulant d'un point de vue évolutif sur des espèces. Et en l'occurrence, donc les perruches qui se sont installées dans beaucoup de grandes villes du monde à la faveur de quelques lâchers involontaires ou volontaires d'humains qui en avaient dans des cages et qui n'ont pas réussi à les garder, se sont très bien acclimatés et développent des capacités nouvelles. Et voilà. Donc ça...
Je reviens à nos chauves-souris. Non, mais très, très bon parallèle en effet avec ces perroquets en milieu urbain. Mais nos chauves-souris qui se font donc dévorer selon des scénarios extrêmes à 7% de leur population, on voit bien donc l'ampleur du problème. Peut-être que ça vaut le coup, Marie Trébert, de rappeler quel est le rôle et l'importance écologique des chauves-souris.
Oui, en fait, les chauves-souris, elles ont un rôle écologique qui est quand même pas du tout anodin, parce que ce sont des animaux qui jouent un rôle essentiel et qui fournissent des services écosystémiques précieux dans le monde entier. Hein, régulation des insectes, dispersion des graines, pollinisation, etc. C'est quand même pas rien. Donc c'est voilà.
Mais c'est toujours important de le rappeler. Je vais nous inviter à poursuivre notre envol, mais vers d'autres cieux. On continue notre club actu. Et si un astéroïde frappait la Lune, c'est ce dont on va parler dans quelques instants, de l'astéroïde 2024 YR4. Restez avec nous.
France Culture. La science CQFD. Natacha Triou.
En direct sur France Culture, on continue de faire le tour de l'actualité scientifique. L'astéroïde géocroiseur 2024 RY4 a fait parler de lui en décembre dernier. C'est ce qu'on appelle un géocroiseur, un petit corps céleste dont l'orbite croise celle de la Terre. Alors pour comprendre comment on les surveille, il faut revenir un peu en arrière avec un autre astéroïde qui a manqué de frôler la Terre, avec de grosses guillemets, c'est Apophis. Nous sommes en 2013.
Ce petit point qui file dans la nuit, c'est Apophis. Cet astéroïde qui fait la taille de 3 terrains de football nous a frôlés à 14 millions de kilomètres tout de même de la Terre. Ce qui a permis aux scientifiques de redéfinir sa taille exacte, 325 mètres de diamètre, et surtout de mieux calculer sa trajectoire. Car Apophis devrait revenir en 2029, puis en 2036. On craignait jusqu'à hier qu'il y ait un risque de collision avec la Terre à ce moment-là. Bonne nouvelle, ce risque est écarté. Le prochain passage d'Apophis, le 13 avril 2029, devrait l'amener à 22 208 km de la Terre, assez près pour perturber peut-être quelques-uns de nos satellites, mais pas assez pour occasionner de gros dégâts. Et en 2036, la probabilité de collision, qui était jusqu'à hier de 1 sur 45 000, est passée désormais à 1 sur 250 000. A priori donc, pas de danger. Des astéroïdes géocroiseurs de ce type, il en existe plusieurs aux environs de notre planète. Ils sont surveillés en permanence et un programme spatial européen baptisé NeoShield a même été lancé pour trouver des moyens de dévier, voire de détruire, les corps célestes vagabonds qui s'approcheraient un peu trop près de notre planète bleue.
Voilà le journal de TF1 en 2013. Philippe Hénarejos, Apophis, c'est la prise de conscience à partir. C'est avec lui qu'on a commencé à construire nos systèmes d'alerte.
Et oui, parce que là, il y avait un risque. Alors, c'était quoi, 1 sur 45 000, la chance. C'est quand même un risque très limité, mais qui est pas nul. Là, ce qui est intéressant avec l'astéroïde dont on parle, 2024 YR4, c'est que quand il a été découvert le 27 décembre 2024, les calculs de trajectoire montraient qu'il avait un peu plus de 1% de chance de frapper la Terre. Et c'est la première fois qu'il y a eu une alerte parmi les astronomes, parce que 1%, ça peut nous paraître pas grand-chose, mais c'est significatif pour les astronomes. Et donc, pour la première fois, il y a eu une alerte, et l'astéroïde a été suivi de manière beaucoup plus précise pour essayer de déterminer la probabilité. Alors, on la détermine comment ? En regardant son orbite, sa trajectoire. Plus on a de points de mesure sur sa trajectoire, plus on peut se projeter dans le futur et plus on peut se projeter de manière précise. Et en faisant ça, on s'est aperçu que finalement, le contact avec la Terre s'était évanoui, c'est fini, la probabilité est retombée. Par contre, comme il passait quand même pas loin, il se trouve qu'il y a à peu près 4% de chance pour qu'il frappe la Lune, qui est notre satellite naturel. Et 4%, c'est pas mal. Alors vous me direz, voilà, il reste 96% pour qu'il passe à côté, mais bon, c'est assez intéressant. Et ce qui intéresse les scientifiques, c'est que ça ait lieu, en fait. Parce que voir un impact comme ça sur un corps céleste aussi proche, je rappelle que cet astéroïde a une taille estimée à 60 mètres. C'est quand même un beau bébé.
Hein. 40 et 60 mètres, voilà. C'est ça. 40 et 90 mètres de diamètre.
Voilà, alors, au milieu, on dit à peu près 60 mètres. Voilà, voilà. 60 mètres. Mais c'est un gros... C'est déjà un corps conséquent. On a... En fait, les impactistes, les spécialistes des impacts, seraient friands de voir ça. Alors, ceux qui s'en souviennent... En 1994, on a déjà vu un impact sur la planète Jupiter avec une comète qui est tombée. Je me rappelle, j'étais au pic du midi à l'époque. J'ai vu ça direct au télescope de 1 mètre. Mais bon, c'était une comète dont on connaissait peu la cohésion et sur une planète géante gazeuse. Là, ce serait un impact, s'il doit avoir lieu, sur une planète solide, la Lune, enfin un corps solide, avec un astéroïde qui est quand même assez dense et pour la première fois, on verrait le résultat. Alors, il y a des estimations. Pour l'instant, si l'impact a lieu, eh bien, ça fera peut-être un cratère de 1 km de diamètre, quand même. Parce qu'il faut penser à la vitesse, qui est de plusieurs dizaines de kilomètres secondes. Donc, l'énergie est considérable. Et ça serait un point de mesure extraordinaire pour les spécialistes. Parce que jusqu'à présent, on date les surfaces planétaires, comme celle de la Lune, en comptant les cratères et en estimant leur taille. Mais on ne sait pas quels sont les corps qui sont à l'origine de ces cicatrices qu'on voit. Et là, on aurait enfin une expérience en direct. On pourrait mesurer ça.
Oui, ce serait une ampleur finalement, une ampleur. Enfin, ce serait une aubaine pour les planétologues de voir un impact d'une telle ampleur.
Oui, parce que notamment dans le cadre de la défense planétaire, il faut savoir quelles sont les conséquences d'un corps rocheux d'une certaine manière qui arrive bon sur la Terre ou sur la Lune. Pour l'instant, on ne le sait pas. Il y a eu quelques expériences, si vous voulez, qui ont été tentées avec des impacteurs, mais c'était des petits vaisseaux spatiaux. On a envoyé la Lune, on l'a envoyé se faire percuter par des sondes, mais ces sondes-là n'ont pas la densité d'un caillou de l'espace ou d'un caillou qui pourrait être de ferreux. Alors c'est en gros une sonde, c'est quand même plein de vide, c'est un gros réservoir avec quelques instruments, donc ça arrive pas très vite. Donc ce qu'on retire de ces impacts n'est pas très significatif des réels impacts qui se passent dans le système solaire.
Mathilde Fontaine.
Oui, je crois qu'on a même tenté la percussion un petit peu plus loin avec la sonde DART qui a percuté un astéroïde et qui a permis aussi de faire des tests de déviation pour se prémunir.
Absolument.
La mission Martera.
Ça, c'est pour essayer de dévier, de voir si on est capable de dévier l'astéroïde. Mais effectivement, après, on observe, il y a eu aussi un impact sur un des deux astéroïdes qui a été vu par une des sondes japonaises, je ne me rappelle plus lequel, je ne sais pas si c'est Bennu ou quelque chose comme ça. Et bien, les spécialistes ont été étonnés de voir que le cratère était plus gros que ce à quoi ils s'attendaient.
C'était la sonde japonaise Hayabusa 2.
Voilà, c'est ça. Et sur le, on voyait un petit impacteur.
Impact sur l'astéroïde Ryugu.
Exactement, Ryugu.
Voilà, le but c'était de collecter des débris par cet impact.
Voilà.
Et en effet, les résultats d'impact ont défié la compréhension des scientifiques.
C'est ça. Et du coup, comme la datation des corps, c'est par rapport aux impacts et à leur taille, par exemple, cet astéroïde-là, qui était estimé à 1 milliard d'années, n'a plus été qu'à de quelques dizaines de millions d'années, sa surface, en tout cas. Voilà, donc on prend conscience ici qu'il est important de savoir quelles sont les conséquences d'un impact réel dans le système solaire. On voit parfois, depuis qu'on observe Mars avec des satellites qui regardent ça, sont de véritables satellites espions. Ils ont une résolution au sol de quelques dizaines de centimètres. Donc depuis des années, par exemple, la sonde Mars reconnaît ses orbiteurs. Quand elle repasse sur la même zone, elle découvre des nouveaux impacts. Mais on ne voit pas l'impacteur. On ne sait pas quel est le corps qui a été responsable de ces nouveaux cratères qu'on voit à la surface de Mars. Là, c'est différent. Avec 2024 YR4, on a vu l'astéroïde. On espère le revoir en 2028 pour encore affiner la trajectoire. On va pouvoir éventuellement en faire des spectres, savoir quel est son type rocheux. Et donc, par chance, on peut parler de chance, parce qu'on risque rien. Hein. Si ça percute la Lune, il n'y aura pas des débris qui vont venir sur la Terre. Hein. Ou alors, s'il y en a quelques-uns, ça fera des jolies étoiles filantes, mais ce sera tout. Et ce ne sera pas dans les heures qui suivront. Donc, si cet impact a lieu, avec des sondes qui seraient en orbite autour de la Lune, on pourra l'observer de près, voir le résultat. Et le résultat pourrait être spectaculaire, parce que peut-être qu'avec une paire de jumelles, on pourrait voir le flash, puisque ça génère de la chaleur.
Les fameux flashs lunaires.
Ben oui, il y a des télescopes qui voient des flashs sur les faces nocturnes de la Lune, mais ce sont des impacts qui font 30 cm de diamètre. Alors, comme c'est dans la face nocturne, on les voit. Mais après, quand on envoie une sonde, c'est trop petit, on voit pas grand-chose. Là, on aurait un cratère possiblement de 1 km de diamètre. Ça veut dire qu'avec un petit télescope d'amateur, vous pourriez voir l'impact, voir les éjectas, c'est-à-dire il y aurait une espèce d'atmosphère transitoire autour de la Lune, avec tout un tas de poussière qui serait élevée. Comme la gravité lunaire est beaucoup plus faible que celle de la Terre, c'est 1/6, ça mettrait quand même pas mal de temps à retomber, ça retomberait assez loin, ça ferait sans doute des rayons autour du cratère, des rayons, des éjectas brillants, comme on la voit sur certains autres cratères. Donc ça prendrait plusieurs dizaines de minutes, peut-être pendant quelques jours, il y aurait des choses qui se passeraient autour de la Lune. Et puis, surtout, après coup, il y aurait un nouveau cratère à observer. Alors, il faut qu'il ait lieu sur l'impact sur la face visible. Il y a de bonnes chances, d'après les prédictions actuelles. J'ai regardé la phase, parce que l'impact est prévu, normalement, le 22 décembre 2032. Alors, c'est pas pour nous. Ça sera plutôt pour l'Australie. Et la phase de la Lune, ce sera un dernier quartier un peu gros. Donc, il y a de fortes chances pour que ça soit côté jour, et une petite chance pour que ce soit côté nuit, et une chance encore un peu plus petite pour que ça soit face cachée. Alors là, ce serait vraiment pas de chance pour les astronomes amateurs.
Alors, ce 22 décembre 2032, si cet astéroïde impacte la Lune, on aurait donc la chance de voir des étoiles filantes. Ce serait une aubaine pour les planétologues, les astronomes amateurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit risque pour nos satellites?
Alors, il y a une étude qui est parue récemment qui montre qu'il y aurait peut-être des risques pour certains satellites, notamment ceux qui sont les plus loin, je pense, en orbite géostationnaire, parce que il y aurait des tas de poussière qui finiraient de toute façon par passer dans le giron de la Terre et éventuellement les impacter. Maintenant, on ne sait pas trop. Donc, c'est vrai que si cet impact arrive, on va apprendre des choses.
Mathilde Fontaine. Non, oui, j'étais en train d'imaginer un scénario de SF qui commencerait le 22 décembre 2032, cette nuit-là, avec tout le monde. J'étais partie un peu ailleurs.
C'est vrai que ça fait très scénario de science-fiction, Armageddon, la Lune impactée. Peut-être qu'il faut un peu préciser ensemble, Philippe Hénaré-Josse, c'est-à-dire que ces seuils, justement, de probabilité, de collision, on sait que, en fait, c'est à partir du moment où on passe un seuil de 1%, alors comme vous dites, il y a plus de 99% de chances qu'il ne se passe rien, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on atteint ce seuil que nos systèmes d'alerte se mettent en place.
Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, on essaie de suivre les objets le plus fréquemment possible. Là, par exemple, dans le cas de cet astéroïde-là, actuellement, on ne peut plus l'observer parce qu'il a une orbite assez elliptique qui l'amène, et c'est quand même c'est gros, 60 mètres, mais quand il s'agit de l'observer au télescope, ça fait pas une magnitude énorme. Donc, s'il est très loin, s'il est à plusieurs dizaines de millions de kilomètres, c'est impossible de le voir même avec de très gros télescopes. Donc, par exemple, en ce moment, on ne peut pas l'observer. Donc, tout ce que je vous raconte, c'est le résultat de la campagne d'observation jusqu'à ce qu'il devienne invisible et qui s'est arrêté. Donc, la prochaine opportunité, c'est en 2028, il va se rapprocher de nouveau de la Terre. Donc là, les télescopes vont pouvoir l'observer, et en couplant les observations qui ont déjà été faites aujourd'hui, plus celles de 2028, il y a fort à parier qu'à ce moment-là, on aura une idée plus précise de la probabilité. Et effectivement, quand ça dépasse 1%, on regarde attentivement, parce que cette probabilité peut soit augmenter, soit diminuer. Et si elle augmente, eh bien, si on passe de 1 à 4, ou à 5, ou à 10, ça veut dire que les risques augmentent, et il faut être prévenu avant. Notamment dans le cas d'un astéroïde qui risquerait de menacer la Terre.
Mais on attend donc 2028 pour affiner toutes ces prédictions. En attendant, un dernier tour de table pour continuer notre tour d'horizon et panorama de l'actualité des sciences. Que trouve-t-on à la une et au menu d'Epsilon ce mois-ci, Mathilde Fontaine?
Ce mois-ci, on part loin, on part en métaphysique quantique avec des théories de sciences quantique, de sciences fondamentales, qui essayent de réinterpréter, des travaux qui essaient de réinterpréter la physique quantique pour comprendre enfin ce qu'elle a à nous dire sur le monde.
La métaphysique quantique, qui sera en effet une émission en partenariat avec nous, la science CQFD, et ce sera, le rendez-vous est pris, le 13 novembre. Et autre petite, on a l'âge du bois, la métaphysique quantique.
Et puisque c'est le moment, en fait, on s'est penché sur les travaux qui ont été menés sur les attentats du 13 novembre, sur le choc post-traumatique, et on fait état de tous les résultats qui ont pu être collectés sur comment est-ce qu'on peut et est-ce qu'on peut se remettre d'un tel trauma.
Marie Trébert, qu'est-ce que l'on trouve ou qu'est-ce que l'on va trouver prochainement dans votre boîte à curiosités?
Ah, en ce moment, je suis un peu les saisons, la biodiversité et les saisons. Donc en ce moment, je m'intéresse aux choses que j'observe dans mon jardin. Les renards qui mangent des noix, notamment, qui sont des omnivores opportunistes, mais qu'on a tendance à oublier qu'ils mangent aussi des petites graines, etc. Donc je m'intéresse à ça.
Biodiversité automnale. Et voilà une de ciel et espace, Philippe Hénaré-Josse.
Eh bien, nous avons l'énigme des supernovas manquantes. On n'a pas vu de supernova depuis plus de 4 siècles dans la Voie lactée, à l'œil nu, un spectacle formidable, là encore. Et normalement, on devrait en voir 3 par siècle. Et donc, où sont-elles passées? Ben, les scientifiques se creusent à la tête.
Et vous, Tania Louis? Ah ben, Tania Louis, je croyais que vous étiez encore avec nous à l'écoute. Eh bien, ce sera un suspense que l'on retrouvera sur votre site également. Bah, tout de suite, là, dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo. Mais un grand merci à vous quatre de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. On continue de faire le tour de l'actualité, mais on va voir que nous raconte l'analyse ADN des dents des soldats de Napoléon. C'est la chronique avec science d'Alexandra Delbo.
De quelle maladie souffraient les soldats pendant la campagne de Russie? C'est la grande défaite napoléonienne. En 1812, Napoléon Ier décide d'envahir la Russie. 600 000 soldats de l'Empire français et des États alliés partent en juin et arrivent à Moscou le 15 septembre, où ils s'attendent à combattre l'armée russe. Mais la ville est désertée et Napoléon est forcé de battre en retraite. Seulement 30 000 soldats atteindront Vilnius, en actuelle Lituanie, en décembre 1812. Beaucoup ont été faits prisonniers, certains certains ont déserté et on estime que 200 à 250 000 sont morts. Et ce ne sont pas les multiples affrontements avec l'armée russe qui aboutiront à autant de décès, mais le froid, la faim et les nombreuses maladies qui circulaient. Rémi Barbieri est postdoctorant à l'Institut de génomique de l'Université de Tartu en Estonie. Il a réalisé ses travaux à l'Institut Pasteur.
Les documentations que j'ai consultées, donc ce sont des archives historiques écrites par des médecins de l'armée napoléonienne, en particulier une très intéressante écrite par Joseph de Kerckhoff, qui décrit évidemment le typhus, il décrit la jaunisse, il décrit de nombreuses diarrhées, il décrit beaucoup de pathologies, mais pas forcément d'évidence où le médecin va dire que le typhus est la maladie qui tue le plus. Par contre, il y a des évidences dans d'autres sources, par exemple dans Guerre et Paix, qui est aussi considérée comme une source historique où Tolstoï raconte que le typhus a décimé l'armée napoléonienne et aussi l'armée russe. Dans les sources que moi j'ai consultées, il parle de nombreuses maladies qui vont sévir tout au long de cette retraite et en fait, ça dépend des moments. C'est-à-dire que quand on sort de Moscou, il peut y avoir de la dysenterie. 2 mois plus tard, de la jaunisse. 2 mois plus tard, du typhus. Mais le typhus, quand même, est un des acteurs majeurs de cette campagne, sans aucun doute.
En 2002, une fosse commune a été découverte à Vilnius, là où se sont retirées les troupes. Les 3000 corps ont été enterrés à la hâte, sans blessure apparente, mais en habit napoléonien. Des analyses ADN ont déjà confirmé la présence de la bactérie du typhus et de celle de la fièvre des tranchées chez ces individus. Le problème, c'est que ces bactéries ont été découvertes parce qu'on les cherchait. C'est la technique de PCR qui a été utilisée, celle que vous connaissez toutes et tous depuis la pandémie de Covid-19, mais est-ce que d'autres pathogènes auraient pu circuler parmi les soldats? C'est ce qu'a exploré cette nouvelle étude parue dans Current Biology. Et cette fois, la technique employée est celle du shotgun. Là, on ne cible pas un microbe précisément. On extrait tout l'ADN contenu dans la pulpe dentaire. Ça donne une véritable soupe génétique avec l'ADN de l'individu, l'ADN du sol environnant et l'ADN des bactéries présentes dans le sang des soldats au moment de leur mort. Tout le défi de l'étude consistait à faire le tri dans cette multitude d'ADN. Et résultat, 2 nouveaux agents pathogènes ont été découverts.
On va trouver 3 soldats infectés par Salmonella enterica paratyphicée, donc la fièvre paratyphoïde, 1 soldat infecté avec Borrelia recurrentis et 1 soldat qui a les 2 maladies à la fois, Salmonella enterica et Borrelia recurrentis, donc la fièvre paratyphoïde et la fièvre récurrente. À partir des symptômes décrits dans les sources historiques, on ne pouvait pas suspecter la présence en particulier de la fièvre paratyphoïde. On pouvait peut-être suspecter la présence de Borrelia recurrentis puisque c'est une maladie qui est transmise par les poux. Et donc on savait qu'il y avait déjà des maladies transmises par les poux, comme le typhus, comme l'a montré l'étude de 2002, et on savait de par les sources historiques évidemment que les soldats étaient infestés par les poux. Donc on pouvait se douter qu'il y avait d'autres maladies transmises par les poux. En revanche, la fièvre paratyphoïde, c'est quelque chose qui n'est pas décrit dans les sources historiques. Alors pourquoi? Parce que c'est une maladie dont les symptômes sont très communs. Ça va être de la fièvre, des diarrhées, des éruptions cutanées, des maux de tête. Et donc, c'est une maladie qui peut être confondue avec beaucoup de choses, et notamment avec le typhus. Et en fait, quand on a découvert ce résultat et qu'on est retourné aux sources historiques, qu'on a relu les descriptions des symptômes dont souffrait le soldat napoléonien Vilnius, on s'est dit, en fait, ça pourrait coller avec la fièvre paratyphoïde.
Alors attention à l'interprétation de ces résultats, ces découvertes ne signifient pas que ces maladies ont tué les 250 000 soldats. On parle ici de 5 individus de Vilnius seulement, sur 13 dents analysées. Les 2 nouvelles bactéries ne sont d'ailleurs pas nécessairement mortelles, mais sur des soldats à bout de force, exténués par le froid et par la faim, et donc potentiellement immunodéprimés, elles ont probablement été fatales pour certains. Les dents analysées ici étaient les dernières, celles qui n'avaient pas encore livré leur ADN. L'étude s'arrête là pour le moment pour ne pas abîmer davantage ces restes car la méthode shotgun, tout comme la PCR, sont destructives d'une partie de l'échantillon. L'enjeu à présent est d'attendre. Attendre que des technologies de séquençage encore plus efficaces voient le jour. Ce que les scientifiques espèrent notamment, c'est de pouvoir, dans un futur pas trop lointain, avoir accès au virus à ARN qui sévissait aussi très certainement à cette période.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Maguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Alexandre Morales, Céline Lozen, Joseph Schlegel. À la réalisation Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui Marie-Claire Oumabadi, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.